pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour, bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fazman à la technique. Oui, c'est le début de la semaine, bien sûr. En première partie d'émission, je vais recevoir Rodney Daisy, chorégraphe danseuse pour son spectacle chorégraphique documentaire. Voilà, et puis il y a une première partie, il y aura un autre spectacle, elle va nous parler de ça, de son parcours aussi artistique. Voilà, j'ai vu quelques vidéos d'elle, c'est très 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 impressionnant ce qu'elle fait. Et en deuxième partie, exceptionnellement, la chroniqueuse de nutrition Louise Thibault qui va nous parler de manger avec son nez, l'importance de l'appendice nasal dans nos choix alimentaires. Alors, je pense bien que l'invité est déjà au bout du fil, on va la recevoir parce qu'elle doit aller en répétition avant de passer la première pièce musicale. Là, tout de suite, ah, je pense bien que ce serait bien de la recevoir rapidement pour que je puisse la libérer pour qu'elle puisse aller faire sa répétition et pour le spectacle qui arrive. Voilà, l'autre spectacle, parce que l'autre, il y a un premier spectacle qui a déjà eu lieu, il y a un deuxième qui va avoir lieu. Alors, bonjour Rodney Désir.
Bonjour.
Comment allez-vous, Rodney?
Très bien, merci, vous?
Voilà, je vais bien, je suis très content, très heureux de vous avoir. Je suis privilégié, je me suis juste...
Merci de l'invitation.
Avec plaisir, et puis merci, malgré l'emploi du temps chargé, d'avoir eu le temps de venir nous parler de votre parcours artistique et surtout de ce spectacle-là. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une... Moi, j'ai vu quelques vidéos d'elle, je dis, mais c'est pas vrai ce qu'elle fait. Voilà, elle parcourt le monde entier avec tous ses spectacles. 2020, Grand Prix de la danse de Montréal. Rodney Daisy, lauréate. 2020, prix Envol, prix de la danse de Montréal, création lauréate. 2021, The Award of Merit Achievement in the Performing Arts. EPAP, nominé. Voilà, c'est la volonté et le besoin de transcender ses origines qui effectue des recherches depuis 2015 dans les Amériques, Martinique, Brésil, Haïti, Canada, Mexique, pour s'imprégner, États-Unis aussi bien sûr, pour s'imprégner des cultures et des rythmiques africaines déployées par les peuples qui y ont été déportés. Rodney, comment l'idée vous est venue?
Déjà, en fait, l'idée du Botuel m'est venue en 2014,
oui.
À une époque où ce que je tentais de démarcher pour présenter l'œuvre Boat. Il faut que les gens comprennent que l'œuvre principale, l'œuvre canevas, j'appellerais, c'est l'œuvre Boat qui a été créée en 2013.
Oui.
Et donc, l'idée pour moi est vraiment venue de deux manières. Premièrement, une intuition. Qu'il me fallait démontrer à quel point les rythmiques africaines afrodescendantes sont vraiment contemporaines et se recréent au gré de l'accélération sociale,
oui.
Et de la transmission sociale également qui se fait sur les différents territoires,
oui.
Et également afin de démontrer à quel point il n'y avait pas de raison de bloquer une œuvre qui était totalement contemporaine sur les scènes ici au Québec. Parce que malheureusement, cette œuvre-là, Boat, au départ, ne circulait pas. Même si elle parlait de migration et de déportation. Donc, en allant faire cette excavation culturelle et historique, je me suis dit, je vais utiliser le génie créatif de mes ancêtres, qui est finalement de se recréer à chaque instant et de puiser à même soi-même, mais également de recréer à partir d'une rythmique connue, d'une rythmique d'un territoire et des rencontres avec les gens que nous rencontrons. Et surtout, que la tradition orale soit au cœur même de cet échange. Donc, c'est vraiment une question de dialogue. Donc, le Boat Trail, en soi, est un parcours de mémoire, mais un parcours de mémoire qui s'ancre dans les conversations, dans les dialogues que j'ai eus avec près de, mon Dieu, 130 personnes à travers les Amériques.
Oui, oui, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans vos différentes vidéos. J'ai dit, mais d'abord, comment... Est-ce que vous envoyez une équipe sur place pour rencontrer les gens, pour préparer
non.
votre arrivée? Ou bien, bon ben, Rodney arrive avec sa valise, et puis, elle fait les rencontres. Comment ça se passe? Explique-nous un peu.
Ben, en fait, je travaille beaucoup à partir de l'intuition.
Oui.
Donc déjà, chaque fois que je me rends sur un lieu,
oui.
La plupart du temps, les gens pensent que c'est des équipes là, de 30 personnes qui m'organisent tout ça. Non. C'est moi au bout de mon clavier avec il y avait une personne justement là, qui m'aidait auparavant à démarcher aussi.
Oui.
Mais la plupart du temps, je ne connais rien sur le territoire. Je connais des fois une ou deux personnes avec qui on a eu des échanges par courriel, un peu par Skype à l'époque.
Oui.
Et je me rends en toute confiance que l'accueil se fait bien. C'est souvent le lieu de résidence de création qui m'accueille aussi. Et ce n'est pas nécessairement le même lieu de résidence de création qu'on connaît ici au Québec. Des fois, ça va être une personne qui a un centre. Des fois, ça va être une institution connue. Mais c'est pas tant pour moi, c'est pas tant la notoriété qui m'intéresse. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut bâtir avec les communautés.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué.
Je pose mes bagages. Oui. Une des personnes importantes, c'est le musicien ou la musicienne avec qui j'ai travaillé, qui va me mettre en lien bien souvent avec une panoplie de gens dans toutes sortes de sphères sociales. Donc, ça peut être un historien, anthropologue, travailleuse ou travailleur social, enseignant, et j'en passe.
Mmh.
Et donc, les rencontres se font un peu comme une courte pointe. Donc, je rencontre une personne qui me dit « tu devrais connaître telle personne », qui m'emmène à un souper, qui me ramène un café, qui me dit « bon, mais marche trois coins de rue, il y a une dame qui vend à telle place, faut que tu lui parles ». Donc, c'est pas tant des gens avec des titres spécifiquement, c'est des gens qui ont quelque chose à me raconter.
Oui.
Et finalement, ça fait des entrevues souvent qui durent entre 1h30 et même jusqu'à 3h, et sinon plus, parce que les gens ont besoin et ont envie de me partager leur savoir. Et ils savent aussi que finalement, je vais le traduire dans mes œuvres, donc c'est pas juste sur caméra. Par contre, après cette séance-là, parce qu'il faut savoir que chacune des escales dure 30 jours, donc les premiers jours sont les jours les plus cruciaux dans lesquels je rencontre les personnes. Et les derniers 10 jours de mon séjour, c'est le moment où j'accouche de mon œuvre. Donc en 30 jours, au 22e jour à peu près, 23e, 24e, j'accouche d'une nouvelle œuvre par lieu.
Mm-hmm.
Qui est un temps express pour créer, qui est vraiment... en fait, je ne crée pas sous pression normalement, mais ça, c'est une méthodologie que j'ai mis en place qui me permet de créer rapidement. Et ensuite de ça, ben au bout d'une vingtaine de jours, pendant tout ça, ben je rentre en entrevue filmée. Donc, les entrevues que j'ai faites avant ne sont pas filmées, et l'équipe de tournage arrive seulement vers la fin. Et tente de remonter le temps avec moi
oui.
et de capturer des échanges audio, vidéo, pour qu'ensuite ça puisse être vulgarisé au grand public. Donc, ça ressemble à ça mes 30 jours. Donc, c'est sans sommeil, un travail acharné du matin au soir. Et c'est loin des tout inclus. C'est vraiment une recherche tout inclus avec les défis qui viennent avec.
Oui.
Dans les défis de tous ordres. Voilà.
Non, mais c'est payant. C'est payant quand je vois vos trois prix à votre âge, toute jeune, avec ces gros trois prix là, de deux en 2020 et puis un autre gros prix, le prix 2021, la Award of Merit of Achievement in the Performing.
Ah, il faut que je précise. Je n'ai pas eu
nominé.
Prix, en fait.
Là, c'est nominé. Voilà. C'est oui, déjà quelque chose.
Énorme, déjà.
Ça, c'est nominé. Les deux premiers, là, les gros prix en vol et puis grand prix de la danse de Montréal, là. Bravo, Rodney.
Merci.
Voilà. Félicitations. Mais moi, si je dis que j'ai vu toutes vos vidéos, je suis un menteur, mais j'ai vu la majorité. J'ai vu une grande. Voilà. Mais je dis, chaque fois que j'étais devant mon ordinateur et puis je vous regardais en mouvement avec les gens, des inconnus qui sont devenus vos amis, il y avait une certaine complicité entre vous et ces gens que vous rencontrez, là. J'ai dit, mais est-ce que c'est la sympathie, l'ouverture de Rodney ou bien c'est l'ouverture des deux personnes en face de moi, là-dessus, mon écran, là, qui font que...
Ben, écoutez, très honnêtement, moi, j'ai vraiment eu le sentiment...
Oui.
Ben, déjà, je suis une amoureuse des rencontres humaines.
Oui.
Je pense que c'est une des choses pour moi qui a été le plus difficile pendant les deux dernières années qu'on vient de passer.
Oui.
C'est de ne pas être en mesure de poursuivre ces échanges qui nous ramènent à l'essence. Et la plupart des gens aiment parler. Je veux dire, la plupart des gens aiment... échanger,
oui.
Parler de leur expérience et à quoi ça sert d'apprendre autant de choses si on ne peut pas l'échanger et le partager avec les gens.
Mm-hmm.
Donc, pour moi, j'ai eu accès à beaucoup de cadeaux et finalement, mm-hmm. ces cadeaux qui sont des échanges humains, mais permettent-moi aussi aujourd'hui de le transposer, de le transmettre aux personnes à qui je dois le transmettre.
Oui.
Parallèlement à ça, c'est certain que oui, les musiciens et les musiciennes avec qui j'ai travaillé sont devenus des amis, les gens que j'ai rencontrés.
Ouais, je m'apprêtais à vous demander d'ailleurs si vous gardez le contact avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées.
Oui. Ah oui, vraiment, et c'est des frères et des sœurs pour moi profondément dans l'âme, parce que ce qu'on vivait ensemble, c'est tellement un travail acharné, c'est tellement un travail qui est difficile, que de créer et de broyer l'information traumatique. C'est pas des sujets, on parle pas de fleurs qui poussent sur le sol, là. On parle vraiment de sujets chamboulants, qui sont un miroir trop près, bien souvent, de nos réalités, qui sont un miroir de nos réalités, tout simplement. Et donc, l'exutoire, l'espace pour canaliser l'information, ça se passe en studio. Et la personne qui est à mes côtés, qui le broie en même temps que moi, ce sont les musiciens et les musiciennes qui ont un génie incroyable. Et donc, pour moi, ben, ces conversations, et ces conversations rythmiques, j'appelle, donc de création, c'est elles qui se retrouvent dans les œuvres Boat Martinique, Boat Haïti, Boat Brésil, Boat Mexico, et j'en passe. Maintenant, les rencontres que je fais, ben, ce sont des rencontres humaines qui vibre sur la même, au même diapason de l'émotion. Et c'est pour moi un peu l'équivalent de quand j'ai fait le chemin de Compostelle en 2007 pour des raisons personnelles, de quête personnelle. Et lors de ce parcours, les gens que j'ai rencontrés, c'est un peu la même chose que durant le parcours du Boat Trail. Les gens me partageaient rapidement le cœur de leur vie parce qu'il n'y a pas de filtre à avoir. Et donc, c'est ça que je trouve beau, c'est quand l'ego tombe, lorsque les filtres des grands titres tombent, on se rend compte finalement qu'on a un cœur et qu'on a quelque chose à partager. Donc moi, c'est ça sur quoi le Boat Trail s'appuie. Et aujourd'hui, ben, l'œuvre Boat Trail Rétrospect que je présente en tournée en ce moment, qui nous donne accès.
Oui, parce qu'il y a eu le Boat Trail original. Là, c'est un rétrospect.
Mais en fait, il y a, faut que les gens sachent, il y a un archivage de 9 œuvres Boat. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est beau, c'est que les gens peuvent regarder sur mon site web l'œuvre Boat originale. Et là, y aller, la prochaine, Boat Martinique était la première, la deuxième, Haïti, Brésil, Mexico, Halifax, Nouvelle-Orléans.
Ça, j'ai adoré. C'est un de mes préférés, ça, Nouvelle-Orléans. J'adore. Tout le reste que j'ai pas encore vu là, il faut que je repasse sur vos sites là. Je vais revoir ça. Comment s'est passé, Rodney, comment s'est passé le spectacle du 6 avril au théâtre Gilles Vigneault?
Très, très bien.
Les gens se sont déplacés?
Ben, en fait, c'est sûr que le démarchage au niveau de la danse est déjà un marché un peu plus difficile que les autres marchés de la musique. Donc, il y avait un public, qui s'est déplacé. On est encore en période pandémique. Donc, il y a des gens qui ont l'habitude de revenir. J'espère que les gens vont se déplacer quand même s'il y a il y a encore une hausse de cas qui vient de ressortir. Mais moi, j'invite les gens à venir voir le spectacle. Et si jamais il y a quoi que ce soit pour eux, ben, c'est des salles qui sont de toute façon sécuritaires. Les gens portent le masque tout le long du spectacle. S'il y a des gens qui ont un inconfort, c'est pour ceux qui ont une crainte, mais c'est aussi, je pense, d'en parler avec le diffuseur et de voir dans la salle quelle disposition les personnes peuvent prendre. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas. On dit aux gens, venez voir le spectacle, mais on vient de vivre dans 2 ans où ce qu'on se fait dire, nous nous collons pas, nous nous mettons pas côte à côte. Donc, moi, j'adresse cette question-là, cet élément-là en disant aux gens, ceux qui ont des craintes, ça vaut la peine de parler avec les salles de diffusion pour comprendre et de nommer ces craintes pour trouver les meilleures solutions possibles, parce que les gens qui ont passé 2 ans à se casser la tête pour faire en sorte que les gens reviennent dans les salles.
Je vais prendre la balle au bon. Avant de passer au spectacle du jeudi 14 avril là, à la Maison des Arts de Laval, comment Rodney a vécu cette période de pandémie qui n'est pas même pas encore... La grande période, les 2 ans qui sont derrière nous là. Comment Rodney a vécu ça?
Ben en fait, est-ce que tout est passé derrière nous? Je ne sais pas. Moi, je me fais point d'illusion. Tant mieux que c'est passé. Mais disons qu'on est dans une marmite. Et donc, pour moi, le plus bel apprentissage a été d'avoir développé. J'ai un pressentiment que pour moi, personnellement, mes dernières 9 années du Boat Trail ont été finalement une préparation à cette pandémie. Donc, je me suis appuyée sur la même chose qui est comment je me recrée. Oui, ça a été extrêmement difficile. Je ne le cacherai pas, point de vue réalité, conciliation famille, travail, conciliation créatif. Mais moi, je suis rentrée en phase de création. Donc, je ne suis pas juste sur scène. Ma recherche, mes interviews, ce qui m'a manqué, c'est le contact en personne. Mais j'ai continué. J'ai jamais autant travaillé. Non pas parce que les mandats rentraient, mais parce que il y a beaucoup d'artistes qui ont eu du pain sur la planche. La scène n'est que le 5% final à la fin. Mais avant ça, on a tout un travail de recherche à faire, des créations et administratif. On a des entreprises, des organisations à gérer.
Oui,
J'ai géré les ressources humaines, j'ai géré des restructurations d'organisation, j'ai replanifié, j'ai revu au point de vue innovation, excellence, qu'est-ce qu'on veut déployer pour les prochaines années. J'ai développé des nouveaux partenariats avec des organisations que jamais j'aurais pensé même avoir accès un jour. Je peux pas annoncer pour l'instant, mais éventuellement, je ferai l'annonce. Donc, pour moi, ça a été des années où ce que je n'ai pas arrêté.
Bravo.
Merci.
Ouais, on a pas. Oui, j'ai encore. On va parler rapidement avant d'aller à la date du 14. Là, c'est le dernier spectacle à Laval, à la Maison des Arts de Laval. Ça va être. Donc c'est dans quelques jours là. Oui, ça va aller très vite.
Dans 3 jours.
Dans 3 jours. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la signature chorégraphique, documentaire et afro-contemporaine de Rodney Désir s'ancre dans les langages rythmiques africains et afro-descendants allant de sa terre natale d'Haïti. Elle est originaire d'Haïti, c'est une Montréalaise, faut pas se... Ouais, et au reste des Caraïbes, en passant par l'Afrique centrale et subsaharienne. Je connais des chorégraphes noirs, femmes noires ou bien hommes noirs ici à Montréal, mais le style de Rodney, c'est particulier, ça, il faut le dire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a un autre spectacle qui vient le jeudi 14 avril à la Maison des Arts de Laval. Allez-y la voir, ou bien allez-y sur son site, allez-y découvrir ce qu'elle a fait durant ses 15 ans. Elle crée depuis 15 ans des œuvres chorégraphiques. Bravo. Alors, parlez-nous un peu de ce spectacle-là. Je vais vous laisser partir, je sais que vous avez une répétition aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, Love Boat Trail Retrospect retrace mon parcours de mémoire.
Oui.
C'est la 8e œuvre de la série Boat. On retrouve sur scène deux musiciens exceptionnels, donc Jason, qui est drummer, et Ngan Ndang, qui est beatmaker, mais également compositeur.
Oui.
Les deux nous emmènent dans des sonorités qui sont à la fois basées dans l'ancestralité gabonaise, mais également qui nous plongent dans des rythmiques afro-pop et j'en passe. Mais j'ai pas de mots spécifiques parce que les gens souvent vont s'arrêter sur un style, mais on traverse. C'est le mot que j'utiliserais. Nous traversons par le corps, par l'image. Il y a des projections numériques qui ont été faites par Manuel Chantre, qui partent des images documentaires qui ont été tournées par le passé, donc par Marie-Claude Fournier à la réalisation et Clark Ferguson à la direction photo. Et on replonge dans ma mémoire. Donc, l'écran numérique sert de catalyseur pour replonger dans ma mémoire. Et moi, je suis sur scène en solo, mais je ne suis pas seule. J'ai mes 3 boîtes de bois. Et la multiplication du nombre de personnages qui sont présents sur scène, ça sera à vous de les compter, mais je déploie une bonne somme des conversations que j'ai eues avec les gens que j'ai rencontrés.
Ceux qui veulent aller voir les vidéos, communiquez le lien de votre site, s'il vous plaît.
Oui, alors le site web de RD Création, c'est mon nom et mon nom de famille, donc rodneydesir.com.
Oui.
Et les gens peuvent aller sur RTV ou tout.tv
pour
voir le Boat Trail et voir la magnifique plateforme sur RTV qui contient 75 vidéos et près de 5 heures de contenu.
Oui.
Donc, après avoir vu ça, je crois que les gens vont avoir suffisamment d'informations. Mais ils ne sont pas obligés d'y aller avant, mais ça donne vraiment un très grand aperçu.
Ouais, tout ce que Rodney a fait durant ses 15 ans de production.
Voilà.
Merci beaucoup, Rodney Désir, chorégraphe danseuse.
Merci.
Hey, bonne répétition et beau spectacle le jeudi.
Merci. Au plaisir. Au revoir.
Au revoir. Ouais, c'est la jeune Berita, B-E-R-I-T-A, Tandoule Weto. Waouh, quelle belle chanteuse et guitariste en même temps. Elle a la guitare, elle a la voix. Alors, avant de passer à la prochaine pièce musicale, voilà, je vais parler un peu de quelque chose qui... pas de jazz, pas de marché, mais je vais parler un peu de high-tech. Voilà, c'est important. Transport. Il y a Hyperloop, c'est les trains qui vont marcher, qui vont marcher dans les tuyaux, là. Il y a Transport qui prend une longueur d'avance. C'est tout nouveau, tout frais. L'entreprise canadienne Transport dispose d'un financement de 550 millions de dollars afin de construire un premier tronçon de 17 km pour une ligne de type Hyperloop entre la ville d'Edmonton en Alberta et son aéroport. En gros, c'est une distance de 300 km, mais je pense bien que pour l'instant, ils vont faire un tronçon de 17 km. Oui, entre l'aéroport. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a pas mal d'entreprises ou bien de compagnies, de pays qui sont lancés dans ce projet, mais qui ont abandonné parce que les coûts sont vraiment faramineux. Ça coûte cher. Et donc, le co-créateur PDG de l'entreprise qui a répondu aux questions de Science à venir. Et c'est vraiment intéressant, non? Puis surtout que c'est une compagnie de transport, c'est une compagnie canadienne. Alors, pourquoi ne pas en parler? Ouais. Et ça commence bientôt, là. Ils ont récolté 550 millions. Voilà, je n'ai même pas assez de temps pour aller en profondeur. Alors là, le Hyperloop, il y a d'autres qui avaient essayé, celui de Virgin Hyperloop, mais Transport n'a pas baissé les bras. Il y a d'autres qui ont déjà abandonné et la technologie est... L'objectif, c'est d'avoir les 300 km en Alberta. Donc, ils vont faire un premier tronçon de 17 km. Après ça, ça va être les 300 km qui vont se faire. Et puis, bon, ben, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Il va falloir que, quand ce serait fini, si on a encore envie, on va faire un petit saut là-bas, dans cette région, pour emprunter au moins ce train-là une fois, au moins une fois de sa vie. Voilà, un train dans un tunnel comme ça, parce que c'est un genre de tuyau, hein. Voilà, faut pas. Donc, ça va d'ici, comme ils l'ont dit. Les 280 km qui vont rester après, ils vont les faire par la suite, quand ce serait tout prêt et un peu plus d'argent encore. Donc, d'ici l'été 2023, ça commence, les travaux. J'ai vu des images, c'est vraiment impressionnant, c'est intéressant. Tout se passe en hauteur, hein, c'est pas souterrain, c'est pas un métro. Voilà, le train, il est dans le tuyau, on le voit même pas. Voilà, c'est Hyperloop, ça, c'est les Hyperloop. Voilà, on va en musique? Avec Isabelle Boulay, parle-moi Isabelle Boulay, qui sera en spectacle le 6 juillet 2022 pour ceux qui seront à Paris en été pour ses 50 ans d'anniversaire. Elle aura 50 ans. Ouais. Alors, je me suis dit, j'ai choisi une pièce d'elle. Allez, bonne fête. Si je suis pas à Paris le 6 juillet pour aller te voir à l'Olympia. Isabelle Boulay, parle-moi.
Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos. Vivre nos souvenirs, j'ai même aussi frôlé ta peau. Ou dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi, je ne sais plus pourquoi t'aimer. Mais tu es si loin de moi. sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Mais je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus.
Isabelle Boulay, parle-moi. Merci à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on revient avec notre chroniqueur de nutrition, Thibaut, qui va nous parler de manger avec son nez. Voilà, c'est pas un poisson d'avril, hein, ça c'est clair. Ça, c'est l'importance de notre appendice nasal dans nos choix alimentaires. Allez, à tout de suite. Restez à l'écoute pour plus de détails.
Pour reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey, allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Ok, je l'avoue, ok, tout est flou. Ok, je ne t'entends pas. Chaos et silence, dis-moi si tu penses à nous éloigner ou pas. Une part de moi se brise et tremble, cette part c'est moi. La peur n'a pas sa place à prendre là où l'on va.
C'était français, Félix Lemley avec la complicité de Lara Fabian. Un mot à la fois. Voilà. La grande dame, la grande chroniqueuse de nutrition, docteur en nutrition, Luce Thibault, est déjà au bout du fil. Elle va nous parler de manger avec son nez. Quand j'ai vu quelqu'un m'envoyer le document, ça m'a fait sourire, quoi. Manger avec son nez, parce qu'elle nous a déjà parlé plusieurs fois de ça ici, l'odeur qu'on ressent pour les aliments.
C'est pas un poisson d'avril, elle aussi.
Voilà, et puis c'est même pas un poisson d'avril. On dit c'est le 11 avril, c'est pas le 1er avril.
Ah, ben
et puis, et l'importance de notre appendice nasal dans nos choix alimentaires. Ah oui.
Absolument.
Voilà.
Ouais.
Bonjour, ouais. Louise Thibault.
Et un livre coup de cœur.
Un livre coup de cœur, bonjour à toi.
Oui, bonjour, bonjour, Fulgence Blas.
Ouais.
Alors, j'aime bien, moi, j'aime bien parler des rythmes des saisons, des rythmes des journées, et puis des rythmes alimentaires.
Hein, oui.
Parce qu'on ne mange pas de la même façon au cours des 24 heures, on mange pas de façon continue, hein, ni au hasard. En fait, il y a des moments où on mange ou on ne mange pas. Mais notre comportement alimentaire, et ça a été prouvé scientifiquement, il varie de façon rythmique ou périodique.
Oui.
Et ces rythmes ont été mesurés, pas seulement chez des petits rats de laboratoire, mais chez des vrais humains dans des conditions de vie normales.
Oui.
Et on a identifié des rythmes, des horaires d'appétit, des horaires de prise alimentaire et aussi de prise de breuvage qui sont bien programmés. Alors bon, je n'étonnerai personne en disant que on mange pendant notre période d'activité qui est le jour et non au cours de notre période d'inactivité qui est la nuit.
La nuit, oui, oui.
Mais il y a des personnes qui mangent la nuit et régulièrement. Et il y a même un nom pour cette façon de manger. On appelle ça le night eating syndrome ou le syndrome d'hyperphagie nocturne.
OK.
C'est une condition, c'est un désordre alimentaire où les individus ne mangent que le soir et la nuit.
Oui, mais je pense bien que bon, il y a une clientèle bien ciblée, c'est le milieu des artistes.
Ah ben oui.
La plupart du temps.
Cible, oui. Mm-hmm. Et
le milieu des arts. En général,
c'est une condition qui a de multiples causes.
Mm-hmm.
Et une des causes de cette condition, je l'ai apprise jeudi dernier.
Oui.
Que tous les mois, le jeudi, j'assiste à un séminaire scientifique virtuel de l'Université de Columbia à New York.
Oui.
Et une grande spécialiste des désordres alimentaires a affirmé et prouvé qu'une des causes possibles de l'hyperphagie nocturne, quand c'est vraiment un désordre alimentaire, eh bien, ce serait le type d'attachement qu'on a eu avec sa mère.
Ah bon?
Alors, ça prend ses racines très, très profondément dans notre passé. Alors, selon qu'on avait une mère aimante ou une mère qui nous a rejetés, eh bien, on peut souffrir d'hyperphagie nocturne en réaction à ça plus tard dans la vie.
Non, ça n'a rien à voir avec le boulot, le travail.
Parle de la psychologie. En fait, c'est un trouble psychologique.
OK.
L'hyperphagie nocturne.
Mmh. Wow.
Et c'est quelque chose qui se traite, mais pas toujours facilement.
Oui, oui.
Et puis, ces gens qui souffrent d'hyperphagie nocturne, eh bien, ils mangent le plus souvent des aliments sucrés.
Ouais. Ah
bon? Et puis, ce sont des gens qui souffrent aussi de dépression. Et on croit que manger des aliments sucrés, eh bien, ça pourrait représenter une forme d'automédication contre la dépression. Ouais. Fait qu'il y a certaines formes de dépression qui n'incluent pas nécessairement l'hyperphagie nocturne, où on a constaté que les patients ont des rages de sucre.
Okay.
Et un de ces types de dépression, c'est la dépression saisonnière. Et plusieurs personnes vont se sentir pas juste un peu déprimées, mais beaucoup quand, au moment de l'année, les jours commencent à raccourcir, par exemple en octobre, novembre. Donc, il souffre de dépression qui se guérit à l'arrivée du printemps quand les jours allongent.
Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de dépressifs en hiver, quoi.
Ah oui, c'est ça. En fait, on appelle ça le SAD en anglais, le Seasonal Affective Disorder.
Oh.
Donc, c'est ça. Et puis, c'est possible qu'on ait des rages de sucre à ce moment-là et qu'on prenne un peu de poids.
OK.
Alors, les rythmes d'alimentation, c'est aussi la façon dont on combine ces aliments, ces breuvages. Alors, on mange pas nécessairement des repas de la même grosseur au cours de la journée. Puis, il y a des intervalles qui sont quand même assez fréquents. Alors, vous qui nous écoutez, eh bien, prenez le temps d'y penser, vous aussi, Fulgence, que la séquence et la composition de ce que vous mangez, de vos repas, elles varient de façon assez prévisible de jour en jour. Et on parle de rythme circadien. Alors, circadien, circa, qui veut dire autour, dien, qui vient de diem, journée. Alors, ce sont des périodes, au cours d'une période de 24 heures, nous mangeons selon des rythmes qui sont mesurables et prévisibles. Et quand on fait, on décide d'adhérer à un jeûne, par exemple faire un jeûne intermittent, eh bien, nous allons briser ce rythme qui nous est si naturel, notre rythme circadien, et ça peut occasionner différents problèmes, des problèmes de digestion, même des problèmes de morale, des problèmes d'humeur, parce que nous brisons notre rythme circadien.
Oui, ça tombe bien, ça tombe pile d'ailleurs, parce qu'on est en pleine période du Ramadan actuellement pour les croyants, pour les musulmans.
Oui,
pas, absolument. Pas tous les musulmans qui font.
Dernière.
Voilà, c'est pas tous les musulmans, c'est pour les croyants, ceux qui le font, ceux qui arrivent à le faire, parce que c'est pas évident.
Ben oui, j'ai déjà dans mon labo un étudiant marocain.
Oui.
Qui, lui, faisait le Ramadan. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris l'existence du Ramadan, figurez-vous.
Ah ouais,
puis, mais c'est très difficile.
C'est pas tout le monde qui peut rester toute la journée
tout
sans
alors,
rien manger.
Alors, lui, il le faisait. S'il m'écoute, Brahim, il va se reconnaître. Il le faisait de façon très sérieuse. Et il travaillait en même temps.
Ouais.
Alors, il faisait ses travaux et tout, donc c'est moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire le Ramadan.
Oui, à pratiquer leur religion comme de cette manière-là, quoi, ouais, le Ramadan.
Difficile pour le corps, c'est difficile pour le cerveau.
Oui.
Ah oui, très très difficile. Et j'aimerais vous dire que les rythmes de repas, les rythmes, nos rythmes à nous pour notre sélection alimentaire au cours de la journée, eh bien c'est lié au fait que nous ne sommes pas sensibles à certains goûts, à certaines saveurs, de la même façon selon l'heure de la journée.
Ah bon?
Donc, ouais. Alors, mais avant de vous expliquer tout ça, je vais vous dire que l'odorat, pas seulement le goût, il est essentiel pour percevoir certaines saveurs. Alors, je vous disais, on mange d'abord avec son nez, c'est vrai.
Oui.
On goûte avec la langue, mais aussi avec le nez. Parce que quand on a un aliment devant nous, bien, on le sent, mais quand on l'avale, on le sent aussi. Il y a une espèce de respiration qu'on appelle la respiration, enfin l'ingestion rétro-nasale qui fait que quand les aliments arrivent dans notre gorge, eh bien, on les sent une deuxième fois.
Louise, est-ce que je pourrais dire que je mange avec les yeux aussi? Parce que quand je vais au marché Jean Talon, par exemple, quand je vois des mangues ou bien des avocats, je dis, ça me donne l'envie de m'acheter deux mangues au moins.
Ah ben oui.
Parce que je n'ai pas parce que j'ai senti l'odeur, mais parce que je les ai vues toutes.
Si.
Ouais, voilà.
Aussi, non. Absolument. Notre premier contact avec les aliments, c'est avec les yeux qu'on l'a.
Oui.
Ouais. Et ensuite, avec le nez, parce que c'est pas nécessairement donné de pouvoir goûter à ces mangues. Quoique, il y a quand même des dégustations au marché Jean Talon de temps en temps, donc, mais on sent beaucoup. Et puis, si on devient, si on perd le sens de l'odorat, hein, si vous avez eu la COVID, vous avez pu expérimenter que vous ne sentiez plus rien et vous aviez probablement l'impression que vous ne goûtiez plus rien.
Ah bon, le fait que tout est lié, hein?
Ah ben oui, c'est lié.
Ouais.
Si vous voulez le tester, je vous propose quelque chose. Faites une dégustation, par exemple, de bonbons ou de jujubes qui ont différentes saveurs. C'est jujubes avec saveur de caramel, de fraise, de citron.
Oui.
Pincez-vous les narines avec vos doigts et observez ce que vous ressentez. Alors, moi, je vous parie que vous allez probablement ressentir un goût sucré, plus ou moins intense. Et maintenant, regoutez en libérant vos narines, effectivement. Et là, vous allez ressentir les autres saveurs. Vous allez ressentir le goût, percevoir le goût sucré, encore plus sucré. Mais toutes les saveurs de fraises, de caramel ou de citron, ce n'est que de cette façon que vous allez pouvoir les ressentir. C'est en les sentant.
Wow.
Ouais. Et est-ce qu'on a encore un peu de temps?
Oui, pour terminer, concernant le coup de cœur.
Ah ben oui, c'est ça. Alors mon coup de cœur, en fait, comme vous le savez, et comme Fulgence, tu le dis souvent, le contenu de mes chroniques, il est largement inspiré de mes livres que j'ai publiés aux éditions de l'Homme
oui.
et de l'actualité scientifique. Mais j'essaie toujours de lire tout tout ce qui s'écrit sur la nutrition pour le grand public.
T'allais piger chez vos collègues aussi.
Oui, et je tombe parfois sur des perles rares. Et ma perle rare, ce mois-ci,
oui, c'est qui?
Un livre qui s'intitule « Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons ?»
Ok.
Alors, l'auteur, elle s'appelle Rachel Hers. Elle travaille aux États-Unis, elle a grandi à Montréal,
oui.
Et c'est une neuroscientifique, comme moi, une neuroscientifique.
Oui.
Elle est spécialiste des domaines de la perception sensorielle et des émotions. Alors, elle va vous expliquer en long et en large, beaucoup plus que moi, pourquoi et comment on mange avec son nez. Et elle va aussi vous expliquer pourquoi vous mangez différemment si vous êtes stressé, fatigué ou même quand vous voyagez en avion.
Ou bien devant la télé.
Ou devant la, devant la télé, devant votre téléphone intelligent.
Il y a des gens qui vont se reconnaître, hein?
Ben oui, hein? La perception de certains goûts, elle serait brouillée par la distraction,
oui.
Mais aussi par le bruit, par la musique, mais par le bruit, parce que nos cordes du tympan, la corde de notre tympan, ben, elle est reliée à notre cerveau. Et
oui.
Ça fait que certains goûts ne sont pas perçus de la même façon. C'est étonnant. C'est étonnant de voir comment est-ce que nos sensations gustatives peuvent être perturbées par ce qui nous entoure. Alors, moi, je vous suggère fortement de découvrir tout ça en lisant « Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons ?» Bon, c'est un livre qui est quand même assez volumineux.
C'est
là,
une brique.
Ça, c'est 400 pages.
400 pages. Bon,
de nombreuses références scientifiques. Tout est appuyé par la science. C'est une scientifique, une vraie de vraie.
La maison d'édition, s'il te plaît, Louise.
C'est Flammarion Québec. Ça a été publié en 2018, mais c'est toujours en librairie.
Ouais, d'accord.
Alors, voilà ma suggestion de lecture en ce début de mois d'avril.
Merci beaucoup, Louise.
T'en prie. Et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, puisqu'on sera le lundi, c'est le lundi de Pâques.
Oui, alors donc, ce sera mardi, je crois.
Donc, il va falloir que les auditeurs comprennent que Louise ne sera pas là, Fulgence non plus. Le lundi, on ne sera pas là, on se retrouve en studio le mardi 19. Donc, la chronique aura lieu le mardi en première partie d'émission.
D'accord.
Merci beaucoup, Louise.
Merci, puis bon congé de Pâques.
Merci à toi aussi.
Je t'en prie. Au revoir.
Au revoir.
Oh, I can feel you out of reach. Oh, I can see the way you look at me. This hallowed space here in between. Lately you've been drifting, drifting further away from me. Speak, speak. Let all the curtains fall down. Speak, speak. Go on and say it out loud. I would rather you just break my heart than leave me hanging on the edge of what was once. Speak, speak. Don't let this love hold you down. Don't think you need me anymore. Don't think in mind if I walk out the door. Oh, you barely there, don't wanna talk. Lately you've been drifting, drifting further away from me. Speak, speak, go on and say it out loud.
Louiso, speak. Wow, quelle voix. Voilà, avant de passer à la prochaine pièce musicale, terminer en beauté cette émission, je vais parler un peu de high-tech encore, puisque voilà, j'avais parlé de... Je dis encore parce que je venais de parler des trains Hyperloop, des transports. Voilà, c'est des trains qui roulent dans des tuyaux, dans des tunnels. Pas des métros, hein, pas des tunnels, mais des tuyaux, des tubes, si on peut appeler ça comme ça. Ça va se passer là-bas de l'autre côté. Ça, je reviendrai sur ça d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Là maintenant, c'est quelque chose de nouveau d'ailleurs. Un textile acoustique qui agit comme un micro. Waouh. Alors, le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. Et de l'école de design au Rhode Island aux États-Unis qui a publié cet article d'ailleurs le mois passé en mars dans la revue Nature. Et puis, là, il faut le faire. Hein. Les gens ont les idées. Hein. Ils ont conçu une fibre souple piézoélectrique qui s'insère dans un textile dont les ondes acoustiques provoquent des vibrations transformées en signaux électriques. Ça donne quoi? Voilà. Si on pense là maintenant que autour de nous, il y a pour une raison ou une autre, il y a des murs qui ont des oreilles. Sachez maintenant que les vêtements aussi vont en avoir. Ouais, il faut faire attention quand on passe, quand on est dehors en public, parce qu'il y a des gens qui vont dans l'avenir, des gens qui vont porter des vêtements, qui vont avoir des capteurs, des récepteurs, des micros, qui vont tout enregistrer. Donc il faut faire attention. En tout cas, dans un projet de chercheur de du MIT et de l'école du design de Rhode Island, c'est intéressant. Inspiré par l'idée que les fibres textiles classiques vibrent, certes de manière imperceptible bien sûr, et absorbent les sons environnants, l'équipe a conçu un tissu capable de restituer ces vibrations en signaux électriques et de transférer le son. Ce projet nécessite de tester d'ailleurs un projet qui est en train de se concrétisé, ça y est. Et ils ont pensé à qui en faisant ceci? Au non-voyant. Voilà. J'ai dit, il faut que j'en parle. Voilà, au non-voyant. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule ou bien quelqu'un qui... Voilà, c'est vraiment... C'est intéressant, il faut le dire. Donc, pour l'heure, c'est une preuve de concept. Ils vont réussir à capter le son et à l'aide de ce circuit à affecter un premier filtrage pour éliminer le bruit environnemental. Il y a Juliette Marion, d'ailleurs, qui est doctorante au laboratoire du MIT, co-auteur de ce projet. Elle dit cette fibre peut fonctionner pour émettre du son. Là, c'est intéressant. Les non-voyants, plus tard, toutes les chemises, même pas seulement les non-voyants, tout le monde pourra avoir un genre de chemise comme ça, s'il y a des bruits qui viennent d'un côté pour qu'on sache à peu près, s'il y a un véhicule qui vient du côté de l'autre côté pour qu'on puisse se tasser, quoi, sans toutefois, bon, s'écarter, sans toutefois avoir des ennuis. Voilà. Et je trouve que c'est à l'état expérimental. Le projet a déjà des applications potentielles très concrètes. Servi d'aide aux malentendants aussi. Aux malentendants. Voilà. Tu vois. Je corrige. Hein. C'est pas les non-voyants, mais c'est les malentendants. C'est en utilisant, par exemple, ce tissu acoustique dans un bonnet ou une écharpe. Ouais, ça, il y a de quoi dire, hein. Voilà. Il y a de quoi dire là-dessus. Et j'espère qu'à un moment donné, on va tous se procurer ces genres de tissus, de tuques ou bien d'écharpes. On peut également imaginer à un usage visé médical pour surveiller le rythme cardiaque ou le bébé dans le ventre de la mère. Oui, ça va loin. Hein? Je reviendrai là-dessus, ça c'est clair. On termine en beauté. Avec qui? Avec Mark Houston, Just to Have You.
You be calling my name. Now you feeling on me. Ooh, 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 ooh. Girl, I love the way you drink your drink. I love the way you call my name. You put every other girl to shame. I swear it's a shame. Let you leave here and walk out the door, yeah. Let you leave here alone. But you know I ain't done. You the one, you the one.
calling, you be calling, you be calling, you be calling my name. Now you feeling, now you feeling, now you feeling, now you feeling on me. Girl, I love the way, I love the way, I love the way you drink your drink. I love the way, I love the way, I love the way you call my name. You put every other girl to shame. I swear it's a shame. I could let you leave here and walk out the door.
Just to have you. Merci à toi Nicolas, on se retrouve demain à la même heure, dans le même studio. Et merci à notre invité Rodney Daisy, chorégraphe danseuse, spectacle chorégraphique documentaire, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Et puis elle sera encore demain en spectacle, pas demain, le jeudi 14 à la Maison des Arts de Laval. Allez-y la voir. Et merci à notre invité, à notre chroniqueuse de nutrition Louise Thibault, qui est venue nous parler de quoi ? Comment manger avec son nez, l'importance de l'appendice nasal dans nos choix alimentaires. Et vous, chers fidèles auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité, bien sûr. On se retrouve demain sur les ondes de Canal M. Et comme je le dis toujours en fin d'émission, prenez très bien soin de vos minutes. Et sur ce, je vous dis ciao.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relèches moutardes pis de liqueur.
Et surtout, à ça...
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.